Blue Origin. Au micro, Idrissa Seloudia, bonjour. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Des médecins congolais ont décidé hier de durcir leur mouvement de grève en réduisant sensiblement pendant 7 jours le nombre d'hôpitaux devant recevoir uniquement des cas d'urgence sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. C'est ce qu'on a appris auprès de leur syndicat. Les avocats de l'ex-député malien Karim Keïta soutiennent que le mandat d'arrêt international qui vise le fils aîné du président déchu Ibrahim Boubacar Keïta dans une enquête sur la disparition du journaliste Birama Touré a pour fondement une circonstance politique et non de droit commun. C'est ce qu'ils ont écrit dans un courrier adressé à Interpol dont l'AFP a eu connaissance. Au Maroc, la justice a condamné ce lundi le journaliste Omar Radi à 6 ans de prison pour viol et espionnage, des accusations qu'il rejette et que dénoncent plusieurs ONG de défense des droits humains, malgré les assurances de Rabat sur l'indépendance de sa justice. Le nom d'Omar Radi a été cité dans l'affaire du logiciel Pegasus. À ce sujet, deux médias français, le site d'information Mediapart et l'hebdomadaire satirique Le Canard Enchaîné, ont annoncé hier qu'ils allaient déposer des plaintes à Paris après les révélations sur l'espionnage des téléphones de certains de leurs journalistes par le Maroc via le logiciel Pegasus. Le Maroc dément utiliser de tels moyens. En Tunisie, la vaccination anti-coronavirus va être ouverte à tous les adultes mardi et mercredi, jour de fête religieuse. Ce pays, au stock de vaccins jusqu'à récemment limité, n'a complètement immunisé qu'environ 8% de sa population, un taux qui reste malgré tout parmi les plus élevés d'Afrique. Face à un virus qui contamine à la vitesse de l'éclair, en France, le gouvernement a adopté ce lundi un projet de loi comprenant l'obligation vaccinale des soignants et étendant le pass sanitaire aux restaurants, trains et centres commerciaux. Un juge fédéral de South Bend a validé ce lundi la décision de l'Université de l'Indiana d'imposer le vaccin anti-COVID-19 à ses étudiants et personnels, alors que le sujet divise à l'approche de la rentrée aux États-Unis. La décision peut faire l'objet d'appels jusqu'à la Cour suprême. Selon les organisateurs des Jeux olympiques de Tokyo, 58 cas de COVID-19 ont été détectés depuis le 1er juillet sur près de 20 000 personnes, sportifs, encadrants, journalistes, arrivés au Japon. 3 roquettes, dont 2 seulement ont explosé, sont tombées ce matin non loin du palais présidentiel à Kaboul, où de nombreux responsables étaient réunis autour du président Ashraf Ghani à l'occasion de la fête de l'Aïd al-Adha. Selon le ministère de l'Intérieur, aucune victime n'a été enregistrée dans l'immédiat. L'armée israélienne a tiré ce matin en direction du Liban en riposte à des tirs de roquettes sur son territoire, selon un communiqué de l'armée. Les derniers tirs de roquettes vers Israël en provenance du Liban se sont déroulés en mai, alors qu'Israël menait une guerre contre le mouvement islamiste Hamas dans la bande de Gaza. Au Pérou, le candidat de la gauche radicale, l'instituteur rural sorti de l'anonymat il y a 4 ans, Pedro Castillo, a été proclamé hier vainqueur de la présidentielle 1 mois et demi après le 2e tour du 6 juin où il affrontait la candidate de la droite populiste Keiko Fujimori, fille de l'ex-président Alberto Fujimori. Washington et ses alliés ont condamné hier, dans une campagne concertée, les cyberactivités malveillantes de Pékin et lui ont imputé le piratage massif mené en mars contre les services de messagerie Exchange du groupe Microsoft. La Chine a nié la responsabilité de l'attaque et parle de calomnie malveillante. tourisme spatial, Jeff Bezos, l'homme le plus riche de la planète, rejoint ce mardi le club des astronautes à bord du premier vol habité pour son entreprise Blue Origin, 9 jours après le fondateur de Virgin Galactic, Richard Branson. Un troisième milliardaire, Elon Musk, et sa société SpaceX se joindra à la course à l'espace en septembre. La suite de nos informations. En Mauritanie, le gouvernement a interdit la grande prière collective de la fête musulmane de l'Aïd al-Adha, prévue demain mercredi dans ce pays, et a renforcé le couvre-feu nocturne pour endiguer la propagation du coronavirus. Le point avec Michel Joseph.
À Nouakchott, la commission chargée du suivi de la pandémie a décidé, à la suite d'un avis du comité des oulémas, que la prière de la Tabaski soit limitée à des prières à domicile, alors qu'elle se déroule par tradition dans un vaste espace public en présence de nombreux fidèles. Le couvre-feu en vigueur est avancé de 2 heures, soit de 22h à 6h locales et GMT. Le port du masque devient obligatoire et les grands rassemblements sont interdits. La Mauritanie fait face depuis une semaine à une augmentation du nombre de contaminations. Le pays a déclaré plus de 22 000 cas confirmés et 508 décès. L'Aïd al-Adha ou Tabaski, la plus grande fête du calendrier musulman, est prévue demain, mercredi, en République islamique de Mauritanie. Par ailleurs, une campagne de sensibilisation pour le respect strict des mesures de la lutte contre le coronavirus a été lancé hier par le gouvernement. Au Sénégal voisin, la Tabaski va être célébrée aujourd'hui et demain, mais rien que ce week-end, il y a eu plus de 3000 nouveaux cas et l'on redoute une explosion des contagions dans les prochains jours.
En République démocratique du Congo, le parc national de la Salonga, le plus grand du pays, a été retiré hier de la liste du patrimoine mondial en péril. Ce retrait, selon l'UNESCO, est une reconnaissance des efforts entrepris pour préserver ce parc. Nanit Talani.
L'UNESCO affirme avoir décidé de retirer le parc national de la Salonga de la liste du patrimoine mondial en péril en raison des améliorations apportées à son état de conservation. Selon l'agence onusienne, le suivi régulier de la faune sauvage montre que les populations de bonobos demeurent stables malgré les pressions passées et que la population d'éléphants de forêt a lentement commencé à se reconstituer. L'UNESCO explique aussi avoir accueilli favorablement la clarification qui stipule que les concessions pétrolières chevauchant le parc sont nulles et non avenues et que des blocs pétroliers à l'intérieur du parc seront exclus des futures mises aux enchères. La RDC avait officialisé son projet d'exploiter du pétrole dans les parcs des Virunga dans le nord-est et de la Salonga dans le centre en 2018, mais le gouvernement n'y a pas encore officiellement renoncé. Créé en 1970 sous la présidence de feu président Mobutu Sese Seko, le parc de la Salonga, d'une superficie de 36 000 km², est considéré comme la plus grande réserve de forêt tropicale humide d'Afrique. Il avait été inscrit au patrimoine mondial en péril en 1984.
En Haïti, un nouveau gouvernement sera formé aujourd'hui avec à sa tête le premier ministre Ariel Henry, qui avait été nommé par le président Jovenel Moïse juste avant son assassinat, selon un responsable proche de l'exécutif. Les détails avec Nathalie Barge.
Claude Joseph et Ariel Henry ont multiplié les rencontres pour aboutir à la formation d'un gouvernement avec M. Henry comme Premier ministre. M. Joseph, Premier ministre par intérim, reprendra son poste de ministre des Affaires étrangères. La balance a penché en faveur de M. Henry, qui a bénéficié du soutien d'un groupe d'ambassadeurs de plusieurs pays, dont le Brésil, le Canada et les États-Unis, et de représentants de l'Union européenne, l'Organisation des États américains et l'ONU. Samedi, ce groupe avait appelé à la formation d'un gouvernement consensuel et inclusif. Dans cet objectif, le Premier ministre désigné, Ariel Henry, est encouragé à poursuivre la mission qui lui a été confiée de former un tel gouvernement, ont précisé les ambassadeurs. Il n'y aura pas de président. Cette nouvelle équipe aura pour mission d'organiser les élections générales le plus vite possible. Les funérailles du président Jovenel Moïse, abattu le 7 juillet par un commando, auront lieu vendredi. Son épouse Martine Moïse, blessée dans l'attaque, est rentrée samedi à Port-au-Prince après avoir été soignée dans un hôpital de Miami.
La Minute Éco, Nani Talani.
Au Mali, le groupe français Legendre Énergie installera une centrale solaire de 50 MW sur 150 hectares à Fana, à l'est de Bamako, grâce à un contrat de concession de 25 ans signé avec le gouvernement malien. D'après l'agence Ecofin, les travaux qui coûteront 50 millions d'euros pourraient commencer en 2022 pour une mise en service en 2023. L'infrastructure devrait produire 87 gigawatts et ainsi augmenter la production d'électricité du pays. En Tanzanie, Chanta Gold veut produire un demi-million d'onces à l'horizon 2026. Sa mine New Luika sera la première contributrice avec une production de 367 774 onces, soit une moyenne annuelle de 73 555 onces d'or en attente de la mine Singida qui va entrer en service fin 2022. Terminons par la Banque centrale nigériane qui autorise les importations de sucre par trois principaux raffineurs, Dangote, Bua Group et Golden Sugar, estimant que les trois entreprises ont fait des progrès dans la production locale de sucre raffiné. Selon Ecofin, ces trois entreprises vont bénéficier d'un traitement de leur dossier par les banques privées pour obtenir des devises étrangères et vont donc continuer d'importer du sucre brut pour faire tourner leurs usines dans un contexte où l'offre locale fait défaut. Le Nigeria ne produit en moyenne que 75 000 tonnes de sucre de canne par an, alors que sa capacité totale de raffinage était à 3,4 millions de tonnes en 2020.
Merci Nanit et maintenant les sports avec Yakuba Ouedraogo.
Bonjour à tous. La CAF soutient l'organisation de la Coupe du Monde tous les deux ans et poursuit ses projets de Super League continentale. Selon un communiqué publié par l'instance dirigeante du football africain, une réunion du comité exécutif présidée par le président Patrice Motsepe au Maroc ce week-end a soutenu cette proposition saoudienne lors d'une récente réunion de la FIFA visant à modifier la fréquence de la Coupe du Monde depuis que l'Uruguay a accueilli le premier tournoi en 1930. Le mondial a eu lieu tous les quatre ans, à l'exception d'une pause pendant la Seconde Guerre mondiale. Transfert, le milieu de terrain d'Anderlecht, Albert Sambi Lokonga, a signé un contrat longue durée à Arsenal, a annoncé le club anglais sur son site. Plusieurs médias évoquent un transfert d'un montant d'environ 22 millions d'euros bonus compris, courant jusqu'à juin 2026. À 21 ans, le jeune international espoir belgo-congolais, formé à Anderlecht, a fait ses débuts avec le club en 2017 et y compte un total de 78 apparitions. De son côté, le jeune milieu de terrain international espagnol Brahim Diaz, déjà prêté la saison dernière à l'AC Milan par le Real Madrid, a de nouveau été prêté au club vice-champion d'Italie pour deux saisons supplémentaires, ont annoncé les deux clubs. Des nouvelles des Jeux Olympiques, une gymnaste américaine a été diagnostiquée positive au COVID-19. Dans le cadre d'entraînement des Américains, un autre membre de l'équipe a été placé à l'isolement, a annoncé un responsable de la ville d'Inzai à l'est de Tokyo. Il s'agit, selon son père, qui s'est exprimé sur la chaîne CNN, de Kara Ike, âgée de 18 ans et remplaçante au sein de la sélection américaine, dont fait partie la superstar Simone Biles. Le père a précisé que sa fille était asymptomatique et complètement vaccinée. Cette annonce intervient après l'annonce ce week-end du premier cas au village olympique de Tokyo, où des milliers de sportifs et encadrants vivent en bulle. Toujours en lien avec les JO, le musicien japonais Keigo Oyamada, qui a composé l'un des thèmes de la cérémonie d'ouverture prévue vendredi, a présenté sa démission pour avoir harcelé des handicapés dans sa jeunesse. Depuis la semaine dernière, des passages d'entretien qu'il a accordés à des magazines musicaux japonais dans les années 1990 ont refait surface en ligne. Dans ses articles, il a confié avec une certaine légèreté avoir tourmenté des camarades de classe handicapés lorsqu'il était jeune, et ce, durant des années.
Merci, Yakou. Aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Seloudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. La fête de l'Eid, communément appelée Tabaski, est l'une des célébrations religieuses les plus respectées au Sénégal, avec notamment le sacrifice du mouton. Mais pour la deuxième année consécutive, cette fête sera célébrée en pleine pandémie de COVID-19. Avec la conjoncture économique difficile, la hausse des prix et la troisième vague, les préparatifs à Dakar, notre correspondant sur place, Serdina Abagué.
Nous sommes à quelques jours, voire quelques heures de la Tabaski. Les éleveurs sont déjà installés un peu partout dans les rues et places de Dakar. D'habitude, les moutons de race sont très prisés malgré leur cherté. Mais avec la conjoncture, Samba Diallo préfère ne pas en vendre cette année. Il est basé à Liberté 6. Les prix de ses bêtes varient entre 100 000 et 400 000 francs CFA. Sa moyenne de vente, 1 à 2 moutons tous les 3 jours.
Bon, disons il y a 3 ans, on vendait plus de grands moutons, quoi. Maintenant, avec la crise et tout ça, le Covid, les clients qui achètent les grands moutons se raréfient, en fait. Bon, ici, chez nous, les prix commencent à partir de 100 jusqu'à le plus cher. Ici, il est à 400 000. Non, là, ils viennent sonder le marché du mois, quoi, parce que ils n'ont pas encore commencé à acheter. Et puis, la réalité de Dakar, c'est ça, c'est-à-dire, ils n'ont pas d'espace où mettre les moutons. Et puis, bon, vous savez, ils attendent tous leur avance de tabaski, comme on dit.
Amadou Sow est également éleveur. Il a commencé à exposer ses moutons depuis 10 jours. Tenez-vous bien, il n'a vendu aucun mouton. Pourtant, ses prix se veulent abordables et varient entre 100 000 et 350 000 francs CFA.
Les acheteurs se font rares en ce moment. Sûrement, c'est parce qu'ils n'ont pas d'endroit où garder le mouton. Les prix sont abordables. Le moins cher coûte 100 000 francs et le plus cher 350 000. Ils viennent demander les prix, mais n'achètent pas. La preuve, je n'ai pas encore vendu de mouton. Une première pour moi si je compare cette opération Tabaski avec les éditions passées.
Hassan est un père de famille. Il habite à West Foire, un quartier huppé de la région de Dakar. Il n'a pas encore acheté le mouton de la Tabaski. Pour lui, conjoncture ou pas, il va accomplir ce rituel religieux en bon croyant. Il reste optimiste et place toute sa confiance entre les mains du bon Dieu.
C'est évident, je vais acheter un mouton. Même s'il faut le reconnaître, les temps sont durs. Je crois en Dieu et je lui fais confiance. Il va me donner de quoi faire le sacrifice d'Abraham et il le fera avec tout le monde. C'est mon intime conviction. Ça va aller pour tout le monde, même si le contexte économique est particulier.
Le président des éleveurs a annoncé une quantité importante de moutons disponibles pour les besoins de la Tabaski. Il parle de plus de 27 000 bêtes réparties dans les régions. À Dakar, dans chaque quartier, est installé un point de vente seulement. Les éleveurs nous ont avoué qu'en ce moment, les acheteurs viennent au compte-gouttes. Ces derniers reconnaissent aussi que la conjoncture ne leur permet pas de prétendre acheter les moutons avec les prix actuels. Seydina Abagué à Dakar pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
En RDC, multiplication des cas d'enlèvement d'enfants à Lubumbashi par des hommes non identifiés. Certains enfants enlevés ont été retrouvés morts, sans certains de leurs organes. Et ce phénomène nouveau inquiète plus d'un. De Lubumbashi, notre correspondant Narval Mabila.
Plusieurs villes de la province du Haut-Katanga, à savoir Likasi, Kasumbalesa et Lubumbashi, connaissent ces dernières semaines ce phénomène d'enlèvement d'enfants. Plus d'une dizaine d'enfants sont portés disparus. Certains enfants enlevés ont pu s'échapper de mains de leurs ravisseurs. D'autres moins chanceux sont morts, leurs corps retrouvés sans certains organes. Plusieurs parents et responsables religieux se disent inquiets.
Bon, je m'inquiète pour la sécurité des enfants en tant que parents. Puisque vous voyez, les enfants partent à l'école et qu'ils n'y rentrent pas. Dans quelle situation se retrouvent les parents qui sont touchés par ces problèmes? Pour moi, en tout cas, il faut que les autorités fassent un effort pour dénicher les auteurs de ces soi-disant aventures-là, puisque ça nous met mal à l'aise en tant que parents.
On ne peut pas vraiment concevoir une telle chose, enlever des petits-enfants, et ça constitue vraiment une psychose dans la vie des parents. Maintenant, nous ne sommes pas vraiment en sécurité. Nos enfants, on sent qu'ils ne sont pas en sécurité. Vous voyez, avec l'état dans lequel notre pays se trouve, il y avait même une fille qui nous a témoigné qu'il y a sa soeur de 15 ans, qui est perdue jusqu'à aujourd'hui, elle est introuvable. Et il y a aussi une maman que moi je connais, d'où on a pris sa petite fille, on l'a introduite dans une grande maison en construction. et on a enlevé le cœur de l'enfant, cet organe du cœur. On a enlevé ça. Et alors, j'ai sensibilisé l'Église à pouvoir venir tenir vraiment l'œil.
La société civile au Katanga, qui fait le monitoring de ce nouveau phénomène, accuse les autorités de traîner les pas pour identifier les auteurs de ces actes. Abbé Fortigné, secrétaire du cadre de concertation de la société civile du Haut-Katanga.
Jusqu'à présent, il y a nos équipes qui sont sur le terrain, qui sont en train de travailler, mais nous pensons qu'il y a plusieurs personnes qui sont impliquées. Il y a même, par exemple, dans les sondés, les entendus, on parle des hommes de Dieu, on parle de médecins, de magistrats, bon, tout le monde est concerné, toute catégorie, mais c'est un phénomène pour se taper de l'argent en vendant les enfants, en vendant les organes. Le gouvernement doit prendre des stratégies.
Face à la multiplication des enlèvements d'enfants, la police mène des investigations pour démanteler les réseaux de criminels qui sèment la terreur. Général Louis Segon Karawa.
L'enlèvement a commencé d'abord par Gatassi. C'est là où nous avons remarqué que voilà, on commence à enlever des enfants. Finalement, le phénomène est arrivé aussi dans la ville de Lubumbashi. Mais ce qui est important pour la police, c'est de déceler les réseaux qui entretiennent ces enlèvements-là. Nous avons compris que c'est un réseau des étrangers et nous sommes sur la piste. On ne sait pas dévoiler nos stratégies ici. Tout ce que je peux dire aux parents, c'est de protéger les enfants. Les enfants moins de 10 ans, il ne faut pas les laisser. Moins de 12 ans d'ailleurs, il ne faut pas les laisser seuls.
Lubumbashi, Narval Mabila pour VO Afrique.
Lubumbashi en RDC sur le 102.8 FM. C'est bien évidemment VO Afrique, 24h sur 24.
Un calme relatif est revenu dans plusieurs villes d'Afrique du Sud après une semaine de violences qui ont fait plus de 200 morts. Des pillages massifs ont suivi l'emprisonnement de l'ancien président Jacob Zuma pour outrage à la justice. Les dégâts sont estimés à plusieurs milliards de dollars. 25 000 soldats ont été déployés dans les provinces de Gauteng et du KwaZulu-Natal. Reportage de Darren Taylor à Johannesburg, récit de Michel Joseph.
Le gouvernement de l'ANC au pouvoir a été largement critiqué pour sa gestion de la crise. S'adressant à la nation ce week-end, le président Cyril Ramaphosa a déclaré que les émeutes ont été orchestrées pour affaiblir, voire faire tomber, son administration.
Using the pretext of a political grievance.
Sous prétexte d'un grief politique, ceux qui sont à l'origine de ces actes ont cherché à provoquer une insurrection populaire. Ils ont cherché à exploiter les conditions sociales et économiques dans lesquelles vivent de nombreux Sud-Africains et inciter les citoyens ordinaires et les réseaux criminels à s'engager dans des actes opportunistes de pillage aveugle.
Selon le président sud-africain, le chaos a été utilisé comme écran de fumée pour mener à bien un sabotage économique en incendiant des entrepôts, des usines et des centres commerciaux et en bloquant les principales autoroutes.
Through social media, through fake news and misinformation, they have sought to
À travers les médias sociaux, les fausses nouvelles et la désinformation, ils ont cherché à attiser les tensions raciales et la violence. Pire, les instigateurs ont cherché à manipuler les pauvres et les vulnérables. Cette tentative d'insurrection a échoué. Il n'a pas obtenu l'adhésion de notre peuple.
L'un des instigateurs présumés, Tulani Lomo, était l'un des principaux agents de renseignement de Jacob Zuma. La police l'a arrêté et interrogé samedi, mais l'a relâché sans inculpation. Lomo a déclaré aux journalistes à Durban qu'il n'a jamais été l'instigateur de quoi que ce soit, car il est un Sud-Africain patriote qui craint Dieu.
Our people must not allow any influence that will
Notre peuple ne doit permettre aucune influence qui diviserait nos communautés. Nous devons nous unir en tant que peuple pour veiller à laisser un héritage à nos enfants et à la prochaine génération. Ce n'est donc pas le moment de pointer du doigt.
L'ancien ministre du renseignement, Ronnie Caswells, un vétéran de l'ANC, dit de son côté qu'il est important que les incitateurs soient punis. Mais selon lui, le projet GEAR de l'ancien président Thabo Mbeki n'a pas atteint son objectif de sortir les populations de la pauvreté.
Le programme GEAR n'était pas un système économique vraiment capable de faire face de manière radicale à ce que Mandela disait être notre priorité, changer la vie des plus pauvres parmi les pauvres.
D'après M. Casserils, une immense richesse est restée entre les mains de quelques capitalistes blancs et une nouvelle classe super riche de mania noire. Il dit que même si l'ANC a fourni des logements et des services de base, la pauvreté et les inégalités ont augmenté en grande partie à cause de l'échec du parti au pouvoir à créer des emplois. Ensuite, les soupçons de corruption et l'enquête sur les allégations contre l'ancien président Jacob Zuma et d'autres membres de son gouvernement ont divisé encore plus l'ANC. Le procès de Zuma a repris lundi lors d'une audience virtuelle. Il est accusé de fraude et de corruption en rapport avec l'achat d'avions militaires en 1999, du temps où il était vice-président.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Bénin, l'arnaque en ligne inquiète les autorités. En moins de 3 ans, 556 jeunes délinquants présumés en ligne ont été appréhendés par la police. Et en ces périodes de vacances, les autorités disent redoubler de vigilance. Notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur, a Dandé.
Au Bénin, tous les mois, l'OCRC, l'Office central de répression, renvoie devant la justice des cyberarnaqueurs au profil divers, meuniers, apprentis, soudeurs, enseignants, étudiants, élèves. Malgré les appels à la vigilance, le phénomène ne diminue pas. Nickel Saïbo est commissaire de police.
Le chantage à la webcam est venu en tête avec 19 cas. Et sur ces 19 cas, nous avons appréhendé 13 personnes. Et le préjudice, rien que en ce qui concerne les cas, ces cas de chantage, s'élève à plus de 21 millions de francs CFA. Nous avons les cas d'escroquerie à la téléphonie mobile. Ce sont des cas où le délinquant paye des cartes SIM qu'il active via roaming, vous appelle de Cotonou, mais vous fait croire qu'il émet depuis la France.
Ces arnaques sont apparues au Bénin depuis le début des années 2000. Environ 1000 personnes ont été arrêtées par la police depuis 2016, selon des chiffres rendus publics par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Ces 3 derniers mois, une centaine de jeunes se sont fait arrêter et risquent plusieurs mois de prison. Une mauvaise politique du gouvernement, selon Taïmini, artiste rappeur.
Mais monsieur le président, pourquoi la criette s'acharne sur nos frères, les jette en prison? Et c'est pas pour une petite peine, c'est pour des peines exorbitantes. On envoie quelqu'un qui n'a même jamais pris 1000 euros chez un blanc dans sa vie. On le dépose en prison, on lui donne 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Moi, j'ai connu la prison. C'est une formation et quand tu sors, tu n'es pas dû et nu dans ta tête. Quand tu sors, tu deviens un fléau pour ta nation. Et là, on va t'abattre. On va dire, oui, il est seul, c'est un délinquant. Non, c'est la prison qui l'a formé.
Pour la population, l'État doit continuer à sévir et ramener ces jeunes sur le droit chemin. Il y va également de la crédibilité du Bénin.
Cette liste est salutaire. Moi, je l'apprécie. J'apprécie la décision prise parce que aujourd'hui, nos jeunes, nous ne voulons plus manger à la chair de nos fronts. On se dit qu'il faut profiter, prendre les biens d'autrui par le biais de cybercriminalité. Ce n'est pas bien, je lance dans des mauvaises habitudes.
Ce n'est pas une bonne activité parce que ça a un impact négatif sur les relations qu'on peut avoir avec l'extérieur, notamment sur le plan économique. Parce que si quelqu'un vient, il a des risques de se faire arnaquer, de se faire pirater, et ainsi de suite. Il sera peu enclin à vouloir investir, à vouloir s'installer ici.
Les autres victimes de la cybercriminalité depuis que la traque a commencé au Bénin sont les propriétaires des cybercafés. Perçus comme étant des nids de ces jeunes, beaucoup de clients ne s'y aventurent plus par crainte d'être confondus aux arnaqueurs. Les promoteurs se désolent de la situation.
Nous avons enregistré vraiment une baisse au niveau de nos activités. Il y a plus du monde, comme vous le constatez, peut-être quelques-uns qui viennent faire seulement des recherches. Hein. Même ceux qui viennent pour faire des recherches, ils ont eu la panique a gagné le rang, donc tout le monde se méfie.
Les autorités béninoises sont décidées à en découdre avec les cybercriminels. Le procureur général, le directeur de la police républicaine et les préfets ont tous menacé de sévir jusqu'à la dernière rigueur pour que force reste à la loi.
De Cotonou, Ginette Fleur a donné pour VOA Afrique.
c'est tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. VOA Afrique, merci de m'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Seloudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.